l'analyse comme étant une nouvelle fois une manœuvre des États-Unis et de l'Australie pour faire dérailler le processus de négociation internationale sur le climat. Pourquoi maintenant? Parce qu'on s'approche dangereusement de la prochaine grande conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique qui se tiendra à Montréal à la fin de cette année. Et ça sera l'occasion justement de parler de l'après 2012, après la première période d'engagement du protocole de Kyoto. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie effervescence en ce moment au niveau diplomatique international où le climat est dans toutes les discussions. Et les États-Unis et l'Australie, qui n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto, cherchent désespérément à affaiblir le protocole de Kyoto, à le contourner et en tout cas à endiguer un peu ce dynamisme international vers l'après 2012.
Alors qu'est-ce qu'il contient cet accord en fait? Qu'est-ce qu'il dit précisément?
Alors j'ai envie de dire qu'il y a eu beaucoup de bruit pour rien, hein, une petite tempête dans un verre d'eau, parce que quand on y regarde de plus près, il n'y a pas grand-chose. Hein. Tout d'abord, ça ressemble beaucoup plus à un accord presque commercial qu'à un accord politique. Du type du protocole de Kyoto. On est vraiment sur un accord volontaire, donc il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucun objectif chiffré de réduction des émissions de gaz à effet de serre, aucun échéancier non plus. Donc on n'est vraiment pas du tout au même niveau que le protocole de Kyoto, c'est beaucoup plus faible en termes d'engagement.
Justement, ce partenariat a été présenté en fait au départ un peu comme un remplacement, une alternative au protocole de Kyoto. En fait, l'Union européenne a concédé qu'il était un complément.
Le protocole de Kyoto n'empêche pas que des accords régionaux existent. Par contre, ce qu'on peut noter quand même, c'est que les solutions technologiques avancées qui vont donc être diffusées entre ses partenaires, la séquestration du carbone, le nucléaire, fission et le charbon propre, sont précisément des technologies qui avaient été exclues des mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto, et à juste titre, puisque ce sont de mauvaises solutions. Donc je ne pense pas qu'on puisse retirer d'un tel accord beaucoup plus qu'un signal politique adressé à la communauté internationale disant pour les États-Unis et l'Australie, nous faisons quand même quelque chose, mais en aucun cas nous ne ratifierons Kyoto. Et pour la Chine et l'Inde, ne nous en demandez pas trop pour l'instant, laissez-nous nous développer et assumez, vous, pays industrialisés, la responsabilité historique que vous avez dans le phénomène.
Et d'ailleurs, je crois que c'est un leader des Verts australiens qui parle de pacte du charbon, puisque la Chine, l'Australie, les États-Unis et l'Inde sont les quatre plus gros producteurs de charbon au monde.
Bien sûr, l'Inde et la Chine ont notamment de très fortes réserves en charbon. C'est quelque part dire à la Chine et l'Inde, nous vous comprenons, vous avez ces réserves, vous souhaitez les utiliser, faites-le, d'ailleurs nous on s'en prive pas. Et ça va vraiment à l'encontre de la dynamique internationale et notamment de ce que promeut l'Union européenne sur la scène internationale qui cherche à impliquer de plus en plus justement les pays en développement et en développement rapide comme la Chine et l'Inde dans la mécanique du protocole de Kyoto.
En ce qui concerne justement ces fameux engagements de Kyoto jusqu'à 2012, est-ce qu'on a une idée de combien ils sont respectés ou pas par les différents pays signataires jusqu'à présent?
On sait qu'entre 2003 et 2004, les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des pays de l'Union européenne ont augmenté de 1,5%. Or, l'objectif de Kyoto, par rapport à 1990, c'est de réduire les émissions européennes de 8%. Donc, après une tendance, on va dire, à la baisse, jusqu'à présent, on a une remontée. Donc, l'Union a encore à faire ses preuves, a encore à montrer l'exemple. Globalement, les pays industrialisés ont quand même du mal à tenir leurs objectifs. Donc il va falloir que ces pays mettent le turbo dans leur politique climatique pour montrer l'exemple et justement inviter les pays en développement à se joindre à l'effort international. L'Union a un peu manqué de tact jusqu'à présent dans cette discussion avec les pays en développement. Et elle a repris la main à Buenos Aires l'année dernière. On espère qu'elle va continuer sur cette lancée, mais c'est clair que là, l'administration américaine lui met des bâtons dans les roues. Donc il va falloir que l'Union européenne soit forte, qu'elle tienne bon et qu'elle soit unie.